I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, la maman d'un petit garçon de 4 ans, et dans la vie, je suis ostéopathe spécialisée en périnatalité. J'ai destiné ma pratique aux femmes et aux enfants, en particulier dans cette période charnière autour de la grossesse, de la naissance et du postpartum, avec une spécificité, permettre au bébé de mieux téter pour mettre en place un allaitement serein en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement. Ce podcast, je l'ai imaginé pour vous offrir des témoignages variés, des expériences de famille qui ont allaité plus ou moins longtemps et avec plus ou moins de facilité. Ici, vous découvrirez l'allaitement sous toutes ses coutures. Vous pourrez aussi vous informer auprès de professionnels tout spécialisés dans le domaine qui vous apporteront lors d'épisodes experts les informations les plus justes et vous permettront de vous orienter en cas de difficulté. Mon objectif, il est très simple, offrir ces informations à toute mère, famille et tout professionnel qui souhaite se renseigner sur le sujet. Que chacun puisse faire ses choix de façon éclairée et casser les idées reçues qui circulent pour vous rendre l'allaitement plus accessible, plus facile, normal, banal même et ce qu'importe vos envies et votre projet. Ce qui aide ces informations à se diffuser pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier et qui permet à Milkshaker de continuer de s'agiter, c'est vous, par vos partages autour de vous, sur les réseaux, vos écoutes, mais aussi vos notes ou étoiles sur les plateformes d'écoute. Alors je vous serais très reconnaissant de prendre une minute pour soutenir ce projet. Et maintenant, place à l'épisode. On continue aujourd'hui sur cette série concernant les fentes labio-palatines et je vous présente Sarah, ainsi que sa fille, Éléonore, née avec une fente labiale. Le diagnostic tombe durant la grossesse, comme très souvent, et Sarah le sait, elle veut allaiter malgré cette difficulté. On le sait maintenant, les fentes labio-palatines entraînent des défauts d'étanchéité et un manque de maintien en bouche du mamelon qui rend le transfert de lait compliqué. Pour Éléonore, qui présente par chance, entre guillemets, simplement une fente labiale, ça lui complique la tâche, certes, mais ça ne la rend pas impossible, et Sarah et elle vont réussir, tant bien que mal, à mettre en place un allaitement au sein. Dans leur cas, ce sera à l'aide de bouts de sein, si souvent diabolisés, mais ici bien utiles, pour pallier à leurs difficultés. Cet allaitement, ça fait 21 mois que ça dure, c'est du solide, comme quoi elle a bien fait d'y croire, Sarah. À elle de nous raconter son histoire désormais. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Sarah, bienvenue dans Milkshaker.
Salut Charlotte, je suis ravie d'être là.
Moi aussi, je suis ravie que tu sois là. Est-ce que tu peux te présenter, Sarah, pour les gens qui nous écoutent?
Oui, alors moi je m'appelle Sarah, je suis enseignante de formation et puis j'ai une petite fille qui a 21 mois, donc elle est née en juin 2021. Et puis voilà, donc c'était mon premier enfant.
Alors raconte-nous ton histoire, Sarah, elle est particulière et puis celle de ta fille aussi. On peut donner son prénom?
Oui, son prénom c'est Éléonore. Okay, et donc effectivement, bien. On a eu des petites surprises au cours de la grossesse, puisqu'on avait appris, alors c'était lors de la deuxième échographie, on a d'abord appris qu'elle avait un tout petit poids, donc on devait refaire des échographies de contrôle, et c'est lors de ces échos de contrôle que l'échographe nous a annoncé qu'elle était atteinte d'une malformation au niveau de la lèvre et qu'elle aurait... Une fente labio-palatine. À ce moment-là, il savait pas trop quel type de fente, puisqu'il n'arrivait pas à bien voir le palais. Il pensait que ce serait une fente labiale uniquement, parce qu'il n'avait pas l'air très grand. Et d'accord. C'est effectivement ce qui s'est avéré, hein, donc on a eu beaucoup de chance de ce côté-là.
Oui, donc toi, ta fille n'a pas tout le palais qui communiquait avec la cavité nasale, elle a simplement la fente au niveau de la lèvre. Donc en fait, il n'y a quasi que le côté esthétique, enfin, c'est vraiment superficiel comme fente.
C'est vraiment le plus petit qu'on puisse avoir. Il y a vraiment juste la lèvre qui était touchée et puis la narine, quoi, un petit peu, qui était un peu déformée.
D'accord.
Un peu, je sais pas comment expliquer, mais elle était un peu aplatie en fait. Ouais. Elle était pas trop.
Elle s'effondre un petit peu.
Mm. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Mais sinon, au niveau, alors on a entre temps là, on a, c'est notre sujet du moment, on va dire. On a appris qu'elle avait une petite malformation au niveau des dents aussi, là où passait la fente, donc qui est liée, mais c'est, on va dire, c'est moins oui, grave c'est... en tout cas. C'est, on a vraiment eu, ouais, la chance avec la plus petite fente possible, quoi.
Voilà, dans le domaine des fentes, vous avez eu ce qui est le plus simple à prendre en charge.
Tout à fait.
Comment tu l'as vécu cette annonce? Parce que du coup, tu n'étais pas sûre de ça pendant la grossesse?
Non, bah au début, hein, ça a été quand même... Enfin, quand on nous apprend, lors de l'écho, que notre bébé a une malformation, alors on s'imagine le pire. Et puis, bah, au début, c'était vraiment compliqué, puisque on ne sait pas ce que c'est. Je pense que dans la... Enfin, au niveau commun, les gens s'imaginent, on s'imagine à ce qu'on appelait le bec de lièvre. Mm-hmm. Et puis, donc, on s'imagine tout de suite quelque chose de pas très beau. Enfin, c'est plein de questions, l'alimentation, le regard des autres. Est-ce que je la prépare mes proches? Est-ce que je les prépare pas? Comment je me prépare moi? Est-ce que j'aurais envie de faire un faire-part avec une photo? Enfin, plein de questions un peu ridicules et secondaires, quoi. Mais c'est ça. Et puis, finalement... et finalement un peu d'appréhension. Je me souviens que il y avait des bébés qui naissaient un peu autour de nous. Mm-hmm. À chaque fois je regardais, je me disais, ah purée, lui il est vachement beau. Enfin, j'avais presque peur de pas la trouver belle, quoi, ce qui finalement est, on les trouve très beaux quand même à la naissance. Et en même temps je me disais, mais en fait c'est tellement petit, la fente elle se verra pas. Enfin, je me disais, où est-ce qu'il y a de la place pour une fente, quoi. C'était vraiment plein de questions, et c'est vrai que jusqu'à l'accouchement, c'est quand même des interrogations. Est-ce que ce sera vraiment juste la lèvre? Est-ce qu'on va pas encore découvrir d'autres choses? Et surtout que moi j'avais eu des petits soucis au niveau du placenta, et donc avec plus cette malformation au niveau de la lèvre, on avait eu d'autres tests pour savoir s'il y avait pas quelque chose de plus gros qui se cachait derrière ça, en fait. Donc c'était aussi cette appréhension là. Est-ce qu'ils vont pas trouver quelque chose derrière qui n'est pas bon au niveau neuro, quelque chose, quoi.
Oui, t'as eu d'autres inquiétudes qu'une fente.
Ouais, voilà, que juste la fente. Mais bon, finalement, on a vraiment, vraiment eu de la chance. C'était vraiment juste la fente.
Juste la fente de la lèvre.
Ouais.
À cette deuxième écho, pardon, où l'échographe t'annonce qu'il y a une malformation au niveau de la lèvre, est-ce que toi, t'avais déjà un projet d'allaitement à ce moment-là, et du coup, est-ce que tout de suite, tu comprends que ça va peut-être apporter des difficultés, ou est-ce que tu n'étais pas du tout, pas fermée, mais décidée sur ce sujet-là?
Alors, si je m'étais... j'avais très envie d'allaiter, et puis c'était, je pense, dans ma culture familiale, enfin, beaucoup allaitent. Et puis, je sais que ma maman, elle avait dû reprendre le travail assez tôt, et que ça avait été pour elle un regret de devoir arrêter aussitôt l'allaitement. Et je pense qu'inconsciemment, c'était... dans ma tête, quoi. Enfin,
c'était normal pour toi d'allaiter.
Ouais, voilà. Donc, je voulais vraiment allaiter. Et c'est d'ailleurs une des premières questions que j'ai posées à l'échographe, en disant, mais est-ce que je vais... Comment je vais faire pour l'allaitement? Enfin... Mmh. Et finalement, c'est, avec le recul, c'est le seul qui avait été rassurant. En disant, vous inquiétez pas, de nos jours, il y a des techniques, on vous aidera, etc.
D'accord.
Donc, lui a été... sur le coup, quand il nous a annoncé, c'était super dur, mais il avait vraiment pris le temps pour nous expliquer. Enfin, il nous a dû nous garder. Enfin, moi, je me souviens avoir fondu en larmes, et il était là vraiment en... Il m'avait pris la main. Enfin, il était vraiment super...
plutôt
super
rassurant.
Sympa, rassurant, encourageant. Et pour lui, il n'y avait pas de soucis à ce niveau-là. Il nous disait, vous verrez de nos jours. Enfin, c'est vraiment... il y a beaucoup d'aide, etc. Et ce qui est vrai, finalement, même si c'est pas le discours qu'on avait eu par la suite, en rencontrant plus les professionnels, les chirurgiens, etc.
Ouais, justement, donc du coup, comment ça s'est organisé pour vous? Vous rencontrez déjà des chirurgiens avant d'accoucher, c'est ça? Mais sans savoir quel type de fente exactement il va y avoir?
Oui, c'est ça, tout à fait. Donc en fait, tout de suite, j'ai presque envie de dire, on a besoin de rien faire, c'est eux qui viennent à nous, quoi. Les coordonnées sont transmises directement. Donc nous, c'est le CHU le plus proche, c'est Strasbourg qui prend ça en charge. Donc c'est eux qui nous appellent, ils fixent un rendez-vous, on Enfin, voilà, on n'a pas le choix, quoi, ce qui est normal. Donc, on rentre dans un protocole. Et donc, on les a rencontrés. Ouais, peu de temps après cet écho. Enfin, c'était, je dirais, 2 mois avant la naissance.
D'accord.
Quelque chose comme ça. Et donc, qui tout de suite nous explique qu'il y a différents types de fentes. Enfin, que eux, enfin, ils nous expliquent qu'eux, ils opèrent plutôt vers 6 mois.
D'accord.
Alors que d'autres hôpitaux opèrent très tôt, hein, très rapidement.
Oui, surtout sur juste une fente au niveau
oui,
de la
Oui, voilà, mmh. exactement, qu'eux, ils préfèrent attendre 6 mois pour, bon, voilà, pour la maturité du bébé, j'imagine. Mmh. Et puis, et j'avais posé la question de l'allaitement lors de ce rendez-vous, et eux étaient catégoriques, c'était non. Donc, ils
me
disaient même, ouais, même si vous allaitez, il faudra sevrer avant, puisque c'est non pendant 2 ou 3 semaines.
Ah oui,
et
donc
alors
eux,
sur le coup, j'avais été,
ouais.
C'était assez strict, ouais. Donc j'avais été un peu étonnée. Et bon, en même temps, on est un peu, ça va très vite les rendez-vous. On n'a pas non plus le temps de développer toutes les questions. Et souvent, on pense aussi à des choses après coup.
Mm-hmm.
Et donc j'avais pas non plus, enfin, j'avais compris que c'était rien. Et en même temps, je me disais, bon, si c'est le palais, je comprends que c'est rien. Mais si c'est que la lèvre, peut-être que je vais pouvoir. Quand même négocier entre guillemets, enfin voilà.
D'accord. Est-ce que tu savais qu'il y avait différents protocoles qui existaient à ce moment-là, ou enfin tu te retrouves dans ce circuit-là et tu te dis de toute façon ce sera ça mon circuit à moi.
Alors je savais pas non qu'il y avait d'autres protocoles. Alors j'avais beaucoup cherché sur internet. J'étais tombée sur le site d'un CHU, je crois que c'était le CHU de Caen, qui avait mis beaucoup d'infos en ligne. Et où eux justement, enfin l'allaitement n'était pas du tout un souci, donc ça j'avais vu ça après le rendez-vous et c'est j'en avais d'ailleurs parlé dans les rendez-vous pré-opératoires une fois qu'Éléonore était née. Et puis ils disaient que bah chez eux ils faisaient comme ça parce que c'est là où ils avaient les meilleurs résultats, etc. Enfin on continuait de me dire non quoi. Entre temps j'avais vu des sages-femmes qui étaient aussi consultantes en lactation.
Mmh.
Et qui, elles, m'avaient dit que, justement, elles avaient plutôt entendu qu'il fallait favoriser l'allaitement pour stimuler la lèvre, etc. Et puis, surtout, le côté rassurant, quoi.
Bah oui.
Et donc, je m'étais dit, bon, on va essayer de tenir le temps d'hospitalisation, essayer de pas trop la faire téter, enfin, de pas la faire téter. Et par contre, je savais que si c'était trop dur, je prendrais peut-être la liberté de lui donner quand même, quoi.
Ouais, donc à ce moment-là, tu te dis, bon, je vais suivre ce protocole-là, mais je vais le faire un peu à ma sauce en fonction des besoins de mon bébé.
Ouais, si vraiment, ouais.
Donc, les 6 premiers mois, tu vas les passer avec ce bébé qui a une fente labiale, du coup, puisque à la naissance, tu comprends que c'est la plus sympa des fentes, on va dire. C'est plutôt une bonne nouvelle. Comment ça se passe la naissance? Comment tu découvres ce bébé, cette malformation, la narine, etc. Finalement, comment ça se passe pour toi après toutes les appréhensions que tu as eues bien légitimes pendant la grossesse?
Ouais, alors, bon, la naissance, c'est pas super bien passé, mais c'est pas lié à la fente. Enfin, en fait, j'ai fait une prééclampsie, donc elle est née un peu prématurée, donc c'était en allant en césarienne d'urgence. Et
de quoi donc, améliorer un démarrage de
voilà.
l'allaitement.
C'est ça. Donc je l'ai vu très rapidement, mais en fait j'ai vraiment très peu de souvenirs de cette naissance. Enfin j'étais je crois tellement dans les vapes et ailleurs que bon voilà que je me souviens l'avoir eu sur moi super rapidement. Je me souviens même plus vraiment avoir regardé sa lèvre. Enfin. Ouais, enfin c'est passé. Ouais, voilà, c'est passé tellement vite. Et en fait, elle a été avec papa pendant 4-5 heures pendant que je me réveille, quoi. Enfin, et ensuite, du coup, c'est démarrage. Enfin, ensuite, je me souviens quand je l'ai vu, hein, quand je l'ai eu vraiment pour la première fois sur moi, pour essayer de faire une tétée d'accueil. Bon, c'est compliqué, j'ai été branchée de partout, elle aussi, enfin, c'était un peu compliqué, mais malgré tout, elle essayait, hein. Enfin, elle essayait vraiment, donc je suis pas sûre qu'elle ait bu beaucoup à ce moment-là, qu'elle ait pris beaucoup, mais elle a essayé. Et puis, je me souviens pas que sa fente, elle est... Enfin,
forcément, on a regardé, quoi.
Alors, je sais pas si je projetais mes craintes en fait en disant que c'est ça qui gênait parce que elle avait du mal quand même, ou est-ce que c'était juste parce qu'elle était tellement petite, ou Tu vois, avec le recul, je me dis, en fait, c'est peut-être normal qu'ils aient du mal, tout simplement.
Elle avait quelle... Elle était née à quel...
Elle est née à 36 semaines. Donc, elle
ouais,
était...
donc à un ouais, âge, c'est vrai qu'ils sont petits.
C'est encore compliqué. Elle faisait tout pile 2 kilos. Enfin, donc, elle était vraiment toute petite. Et puis... sur le coup, je me disais, oh là, elle a du mal à cause de la fente. Mais avec le recul, là, c'était moi qui projetais cette raison. Ou est-ce que c'était...
Bon, après, on a le droit de cumuler les problèmes. Hein.
Oui, bon, voilà. Mais,
on a le droit de naître à 36 semaines, d'être un peu... d'être pas tout à fait mature au niveau de la déglutition. Et ouais, en plus,
c'est sûr
d'avoir
que ça
une
devait
fente
pas arranger, ça, c'est sûr, ouais.
Alors, et comment ça a démarré, du coup, cet allaitement?
Alors, ça a démarré... c'était vraiment compliqué. Hein. Elle avait du mal à attraper le mamelon, à prendre dans la bouche... en plus, à l'hôpital, bon, on a un peu tout le monde autour de soi qui donne son conseil, qui essaye de montrer, etc. Alors, elle s'endormait aussi très vite, donc elle me disait, il faut que je la stimule, il faut que je lui caresse ou la chatouille un peu au dos pour qu'elle prenne, etc. Et en fait, j'ai eu une montée de lait très, très, très rapide. Et donc, c'était allé très, très vite, donc j'avais très vite assez mal quand même, pas très agréable. Et très vite, des seins assez gros et ça l'empêchait encore plus de
elle arrivait encore moins bien à attraper.
Voilà, limite ça coulait tout seul, donc c'était mouillé, donc elle arrivait pas à... ça glissait, enfin voilà, donc elle arrivait pas. Donc on a essayé comme ça pendant je pense un peu plus de 24 heures, enfin je pense un peu moins de 48 heures peut-être.
Et
ça marchait pas. Très
rapide alors.
Ah ouais, c'était vraiment très 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 rapide.
Okay.
Et elle arrivait pas, elle prenait pas beaucoup, alors on lui mettait un peu le colostrum dans un tout petit gobelet, les gobelets de médicaments, là, enfin, ouais. Donc elle avait un petit peu, et en fait, comme elle perdait du poids, on a commencé à la compléter avec la seringue.
D'accord.
Donc elle a été complétée à la seringue pendant, je pense toute la, on a été une semaine à l'hôpital, pendant toute la semaine, elle a été complétée à la seringue. Et en parallèle, j'essayais de la mettre au sein, mais c'était hyper compliqué. Enfin, moi je pleurais, je me souvenais, ça me faisait mal. Enfin, ça allait pas. J'appelais tout le temps pour qu'on vienne m'aider, mais je pense au bout d'un moment, ils avaient pas le temps non plus d'être toujours là. Et du coup, on m'a donné des bouts de seins.
D'accord.
Des bouts de seins en silicone. Et en fait, ça, mine de rien, ça a quand même aidé, dans le sens parce qu'au moins le sein restait dans sa bouche, quoi.
Oui, elle pouvait s'accrocher un peu plus facilement.
Voilà, c'est ça, elle pouvait s'accrocher. Et en fait, ce bout de sein, on n'a jamais réussi à le quitter, quoi. Enfin, c'était...
D'accord.
Ouais. Il est resté, j'avais essayé, j'étais allée voir une consultante qui m'avait pas mal aidée pour les positions, etc. Mais le bout de sein, j'ai jamais réussi à l'enlever. Et puis au bout d'un moment, je pense que j'ai lâché l'affaire, quoi. Au bout de 3-4 mois où j'ai essayé de l'enlever, j'ai laissé l'affaire. Je me suis dit, bon, bah tant pis, on allait être avec le bout de sein.
Ouais,
voilà,
ça
se passait bien après avec ce bout de sein. Alors au début, c'est un peu pénible parce que y a quand même beaucoup de fuites avec le bout de sein, donc j'étais pas mal mouillée. Puis j'avais vraiment, vraiment beaucoup de lait, ça coulait vraiment pendant les deux premiers mois, tout seul, quoi. Enfin, donc tout ça, ça compliquait. Mais fallait juste pas l'oublier, après ça roulait, quoi.
Oui, c'est ça, c'est qu'il faut pas l'oublier quand on n'y arrive qu'avec ça.
C'est ça, c'est ça.
En l'occurrence, toi, t'avais l'air d'avoir beaucoup de lait.
Ouais, j'avais vraiment
donc,
beaucoup
coup,
de lait.
Du coup,
je
pense que le bout de sein, en termes de transfert de lait, même si ça a un peu diminué tes quantités, peut-être que c'était pas
non,
plus mal.
Non, ça a pas beaucoup diminué. Enfin, ouais, enfin... Je savais que c'était pas l'idéal, hein, le bout de sein. J'avais lu des bouquins sur l'allaitement, etc., et donc c'est pour ça au début je voulais absolument l'enlever, enfin c'était dans ma tête c'était catégorisé, il faut pas, quoi. Et finalement comme justement j'avais pas de baisse de lactation énorme à côté de ça, enfin il y avait toujours autant, enfin.
Et est-ce que la consultante qui est venue est-ce que tu as eu un peu, tu sais, le fin mot de l'histoire sur l'utilisation de ce bout de sein, c'est-à-dire que est-ce que Éléonore elle avait un souci de succion lié à sa fente, est-ce que c'était toi qui avais quelque chose qui pouvait ressembler un peu à de l'hyperlactation avec des seins toujours gonflés qu'elle n'arrivait pas à s'accrocher et c'était vraiment ça qui imposait le bout de sein, est-ce que tu vois, tu as eu l'impression d'avoir la compréhension de pourquoi elle a finalement pas réussi à s'accrocher. Est-ce que c'est la faute? Est-ce que c'est autre chose?
Non, on m'a jamais vraiment dit c'est ça ou c'est ça. En fait, je pense que ça partait du... Enfin, la consultante que je voyais qui était dans mon secteur, elle avait pas vu non plus beaucoup de bébés avec des fentes, je crois que c'était la deuxième. Et du coup, je pense que, on voit un bébé avec une fente, on part du principe, j'imagine, que c'est à cause de la fente que ça va pas trop, quoi.
Toi, et t'avais l'impression qu'elle arrivait pas à ventouser, là-haut?
Ouais, elle avait du mal à ventouser. Après, elle avait aussi beaucoup de mal à ouvrir grand la bouche. Donc, j'étais allée voir une ostéopathe. Mmh. Et puis ça avait pas mal aidé quand même, elle arrivait mieux à ouvrir après. Et tout début, elle avait du mal à tourner, je crois, vers la droite, vers la gauche, je sais plus.
Ouais, elle était un peu coincée, ta louloute.
Voilà, et du coup, ça avait pas mal débloqué, donc elle ouvrait mieux après. Mais ouais, il y avait pas vraiment de vide qui se faisait.
Ouais, peut-être qu'elle avait du mal à ventouser avec sa lèvre, c'est possible. C'est ça. Et que du coup, le bout de sein, ça l'aidait parce que ça restait facilement en bouche.
Parce qu'en fait, les quelques fois où elle arrivait encore au début à téter sans bout de sein, elle tétait trois gorgées et je pense que ça lui demandait trop d'efforts, elle lâchait et puis elle pleurait jusqu'à ce que je lui remette le bout de sein, quoi.
Ouais.
Et puis avec le temps, elle savait même plus téter sans bout de sein et puis même là, hein, je le vois si, enfin, téter pour elle, c'est le bout de sein, quoi. Elle me ramène le bout de sein, c'est pas, elle me montre pas le sein, elle me ramène le bout de sein, quoi.
J'allais dire, au bout d'un moment, après, il y a une question de texture, d'habitude, et,
Ça.
Plus le temps passe, plus c'est un peu difficile à enlever parce qu'ils se sont habitués. Enfin, c'est comme, quand on veut donner un biberon du jour au lendemain à un bébé qui a été allaité pendant plusieurs mois, il comprend pas ce que c'est, il comprend pas ce qu'il faut faire.
C'est ça. Ouais. Exactement,
Ok, très bien. Donc, du coup, 6 mois comme ça, avant l'opération, d'allaitement, avec ce bout de sein, toi, les quantités de lait, objectivement, il n'y a pas l'air d'y avoir de problème.
Franchement, ouais, aucun souci.
Tu fais pas d'engorgement, de mastite et tout ça?
Non, alors j'avais parfois des petits engorgements, mais très rapides. Enfin, suffisait que j'allais sous la douche à l'eau chaude ou un petit coup de tire-lait. J'avais acheté les recueil-lait aussi. Mm-hmm. Ça marchait bien. Parfois, je les mettais... quand j'étais à la maison, quelques heures, comme ça continuait, presque en continu. Et comme ça, j'ai réussi à me... Ouais, enfin... ça. En fait, honnêtement, une fois les 3 mois passés, le temps que ça se mette vraiment bien, que je sois vraiment à l'aise et que je me dise, tant pis, on fera au bout de ça.
Ouais, une fois que t'as lâché prise sur cette histoire de bout de
ça. Ouais, voilà, c'est ça. Après, ça allait bien, en fait. Ça allait bien.
Alors, l'opération arrive. Est-ce que ça t'inquiète?
Ouais, ça m'inquiétait toujours cette histoire de comment je vais faire pour la sevrer, si j'ai besoin absolument de la sevrer pour l'opération. En plus, elle s'endormait au sein, donc j'avais peur qu'elle dorme pas, quoi. Donc j'ai essayé de changer déjà le mode d'endormissement, donc de lui sortir le sein de la bouche avant qu'elle dorme. Enfin, ça a plus ou moins marché. Enfin, c'était pas non plus. Bon, c'était une période aussi, c'était en hiver, donc elle était tombée un peu malade, donc est-ce que ça a joué ou pas? Mais bon, c'était vraiment une crainte aussi qu'elle arrive pas à dormir à l'hôpital, etc.
Ouais, j'imagine, ouais.
Plus, cette histoire, donc elle pourrait pas téter, on avait dû acheter un biberon cuillère par lequel lui donner le lait.
Mm-hmm.
Il disait aussi que si elle mange des yaourts, ce serait peut-être plus facile pour elle que la biberon cuillère. Donc on avait commencé vers 5 mois la diversification pour qu'elle puisse peut-être avoir autre chose. Donc la diversification, alors ça a été compliqué les 3-4 premières semaines, mais après ça allait. Donc elle mangeait un petit peu des yaourts, des compotes à ce moment-là, donc je me disais bon, au pire elle mangera plus de yaourts que d'habitude et puis
Et alors la diversification, elle a pas très bien démarré justement à cause de la fente. T'as eu la sensation ou rien à voir, c'est juste que c'était pas son moment?
Non, je pense que la fente ça a rien changé, je pense que c'était pas son moment. Et en fait, ensuite j'avais essayé directement les morceaux et elle était beaucoup plus intéressée par les morceaux d'ailleurs.
Ah d'accord.
Donc je pense que c'était juste un problème de texture entre guillemets. Enfin,
c'était pas son moment, on lui a proposé quelque chose
ouais,
à un moment
c'est ça,
où elle
quelque
l'aurait
chose,
pas fait spontanément.
Voilà, parce que ouais voilà c'est ça. Mais non, je pense que la fente que labiale n'a rien joué en tout cas dans la diversification alimentaire.
Ok, et alors t'arrives à l'opération?
Ouais, j'arrive à l'opération, t'étais encore le soir avant de partir à jeun au bloc le lendemain. L'opération se passe super bien, enfin ça a duré 3 heures je crois.
C'est pas facile de garder un bébé de 6 mois à jeun le matin, non?
Non, alors du coup ils ont, enfin ils la faisaient passer
Tout de
la
suite.
première.
Ouais.
Ouais, donc enfin j'ai essayé de la réveiller le plus tard possible. J'avais eu de la chance. Bon, elle a galéré à s'endormir à l'hôpital avec les lumières, les bruits, etc. Mais du coup, elle a dormi assez tôt le matin. Enfin, elle s'est pas réveillée entre la dernière tétée et le matin. Donc là, j'étais très contente.
T'as dormi là-bas en fait, vous avez
J'ai
dormi
dormi,
là-bas la
on a
veille.
dormi là-bas avec elle. Oui,
Ah oui.
on a été admis, ouais. On a été admis la veille, dans l'après, je sais plus. Enfin.
Super, ok.
Donc ouais, donc elle passait vraiment la première. Je pense que ça devait être 7h, 7h30 du matin. Donc, même si on avait dû la tenir un peu.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Je pense que ça aurait été gérable.
Ouais.
Voilà.
Ils l'ont prise au saut du lit.
Voilà, c'est ça. Donc là, ça allait, il n'y a pas eu de souci. Par contre, on avait eu ce souci. Elle s'est fait opérer 2 fois à 10 jours d'intervalle pour enlever les fils, etc. Et la deuxième fois, là, effectivement, la tenir à jeun, ça a été très très compliqué.
D'accord.
Donc la première fois, pas de souci. Donc elle va au bloc. Bon, pendant ce temps, bon, on fait un peu les 100 pas dans la chambre. Je me souviens, j'étais allée me balader autour de l'hôpital, mais en même temps, on veut pas louper le retour du bébé, etc. Donc ouais. Et puis, quand on l'a revue, donc elle venait de se réveiller après la salle de réveil. Elle était complètement shootée encore. Hein, donc c'était, elle pleurait, mais elle se rendormait, elle repleurait, elle se rendormait. Enfin, c'était bon, voilà,
Ouais, elle était pas
retour
bien.
de salle d'op, quoi. Ouais.
L'opération, elle consiste dans le fait de venir raccorder
Ouais,
les deux
c'est
morceaux de
ça. En
lèvres.
fait, ouais, en fait, ils nous ont expliqué que eux, ils coupent en fait les petits. La lèvre qui est accrochée à la lèvre qui remonte. Et pour vraiment raccorder chaque nerf, chaque vaisseau un à un. Et ils ont même coupé un peu dans la narine aussi pour essayer de la remettre droite. La remettre. Du coup, elle avait une cicatrice en fait qui partait de l'intérieur de la narine jusqu'à la lèvre et à l'intérieur la lèvre aussi, puisqu'ils ont aussi recousu par derrière.
Et donc du coup, ils viennent aussi travailler sur cet effondrement de la narine dont tu
Ouais.
parlais?
Ouais, c'est ça. Ils viennent remettre le nez en place. Alors, ils se posaient la question de lui mettre Ah, je sais plus comment ça s'appelle.
Oui, une espèce de petite prothèse là.
Oui, voilà, qui tienne le nez droit. Vu qu'elle, c'était qu'une narine, elle en a même pas eu besoin. Donc ça, c'était. Elle en a juste eu, hein, la première semaine d'hôpital.
D'accord.
En fait, ils les cousent avec au début pour vraiment pas que ça bouge. Et ensuite, normalement, on est censé les mettre, les enlever régulièrement pour les laver. Enfin, ça peut durer parfois entre, je dirais, 4-6 mois hein, pour certains enfants.
Ouais.
Enfin, on nous avait dit au départ, on était parti pour les avoir, quoi. Donc, c'était la bonne surprise qu'on ne les ait pas après.
Ouais. Madeleine en parle dans l'épisode précédent, puisque
D'accord.
son bébé en a eu un.
A dû en
Donc,
avoir,
vous pouvez écouter le témoignage de Madeleine. Elle parle
ouais.
de je sais plus comment elle appelle ça, mais enfin, c'est comme une petite prothèse qui vient se caler dans le nez et qui, en effet, ils l'ont gardée vachement longtemps après l'opération. Et alors,
Donc,
l'allaitement?
ouais. Et alors, l'allaitement, alors au début, on me dit rien du tout. Alors, au début, je crois qu'elle avait même pas envie, quoi. Elle prenait 2 cuillères de lait et elle était limite rassasiée. Enfin, elle était tellement. Donc, ça. Elle en voulait pas. L'endormissement, alors la première nuit, pas de souci. Je pensais qu'elle était totalement crevée. Mais ensuite, les nuits d'après, c'était vraiment dur. Et elle cherchait le sein vraiment pour s'endormir. Et là, c'était. Moi, je me souviens, c'était horrible, hein, de l'entendre hurler parce qu'elle voulait le sein. Ne pas lui donner, je me souviens avoir appelé l'infirmière, mais vous êtes sûr que je peux pas lui donner juste 3 minutes, quoi, le temps qu'elle s'endorme. Et limite, il restait dans ma chambre pour pas que je le fasse, quoi.
Ah oui, d'accord. Ah oui, ils y
C'était,
tenaient vraiment.
ouais. Ils y tenaient vraiment. Et en plus, Bah en fait, dans ces moments-là, en doute, même si j'étais peut-être venue dans l'idée de me dire « bah tant pis, j'écoute pas, je lui donne », bah sur le moment, et si ça recasse sa cicatrice, et si les fils s'ouvrent, s'ils me disent non, c'est qu'il y a une raison, enfin même si ailleurs ils permettent, peut-être qu'ils ont pas le même type de fil, enfin j'en sais rien.
Tu te poses 20 000 questions, t'as pas envie de faire des bêtises.
C'est ça. Donc on tient, c'était dur, bon elle finissait par s'endormir bien sûr, mais voilà. Après il y avait une infirmière qui était vraiment super sympa, qui avait tout fait pour qu'elle ait pas besoin de dormir dans son lit, elle avait pu la débrancher, elle avait dit bon on voit bien que les stats sont bonnes, donc on lui enlève comme ça, elle peut dormir sur vous, enfin c'était vraiment, elle avait essayé de faire au mieux pour que, malgré hein, ce manque de succion de tétée, ça se passe au mieux, donc il y avait quand même, enfin je veux dire ils étaient sympas quand même quoi.
Oui, c'est juste ça, mais...
Voilà, c'était leur protocole, quoi.
Avec toute leur bienveillance, mais leur protocole était comme ça. Ouais, ils n'avaient pas envie de s'y déroger parce qu'ils n'ont pas envie de recommencer leur truc.
Bah, c'est ça. Et bon, après, elle mangeait quand même pas trop mal des yaourts, des compotes. Donc, finalement, ça allait quand même mieux. Et puis, on a pu sortir donc, au bout d'une semaine.
Donc, pendant une semaine, pas d'allaitement.
Ouais, alors j'ai donné une fois au bout de 4 jours à l'hôpital. Et puis, ensuite... Bah, j'ai plus trop osé non plus. Et en fait, dès le retour à la maison, le soir, direct, je lui ai redonné. J'arrivais plus à tenir. Et puis, je pense qu'elle me regardait dans les yeux en me disant « Mais maman, pourquoi tu m'as empêchée pendant tout ce temps, quoi ? Enfin, tu m'écoutes. » Et puis après, elle était devenue complètement accro, quoi. C'est-à-dire qu'après, pendant des nuits entières, elle faisait que ça, quoi. Comme si elle avait besoin de se rattraper.
Pauvre bichette.
Et voilà, ouais. Et en fait, je leur ai pas dit à l'hôpital que... Parce que pour eux, au départ, c'est 3 semaines sans rien.
Ouais, 3 semaines, donc, c'est long. Hein.
C'est hyper long, ouais. Donc, au bout d'une semaine, on est rentrés et on retournait 5 jours après pour enlever les fils. Et donc, c'était de nouveau une opération. Enfin, il la réendormissait, etc. C'était très rapide, ça a duré un quart d'heure, mais il a...
Mais quand même,
c'était de nouveau sous... Ouais. Et donc là, effectivement, c'était très long d'attendre qu'elle passe au bloc, puisqu'on arrivait le matin même en hôpital de jour, en fait.
Oui.
Et donc, l'intervention était prévue à 11h, donc déjà, il fallait... Donc, je me souviens, le soir, je m'étais dit, tant pis, on endort un peu plus tard pour qu'elle dorme dans la voiture jusqu'à 10h, enfin, voilà.
Échec.
Et en fait, finalement, au lieu de... Ouais, ça, c'est pas tellement... bon, voilà. Et en fait, au lieu de passer à 11h, elle était passée vers 15h. Et là, c'était horrible d'attendre, quoi.
Ah ouais, non mais là, c'est hyper dur. Faire tenir un bébé.
Ouais, c'était hyper dur. Donc, on se promenait. Enfin, franchement, tous les livres possibles, tous les jeux possibles, ils passaient. Et...
Oh, la pauvre, c'était longue, elle.
Ouais, la musique, c'était très long, ouais. Elle pleurait beaucoup. Et puis bon, l'opération, c'était très vite passé. Enlever les fils... pas de soucis, il me disait que la cicatrice était super belle, donc je m'étais dit, bon, c'est que l'allaitement n'a rien bougé, donc tout va bien. Et en fait, ensuite, on a repris l'allaitement tout à fait normalement.
Oui, et là, une fois que les fils étaient enlevés, par contre, de toute façon, il t'autorisait.
Non, normalement, il me disait de continuer au moins pendant encore une semaine, de rien donner, tétine, allaitement, rien du tout, pour être sûre, mais là, j'ai, on ne guillemets, pas écouté. Surtout qu'il fallait qu'on masse la cicatrice avec une crème 2 ou 3 fois par jour. Et donc, moi, je me disais, bah, l'allaitement, ça masse, quoi. Enfin, je vois pas pourquoi on a le droit de masser et pas d'allaiter. Donc, là, j'avais plus scrupules. Enfin, voilà.
Surtout qu'elle était avec les bouts de seins, que nécessairement, ça. Enfin, elle avait un peu moins de taf de ventouse à faire.
Oui, voilà, c'est ça. Donc, et puis, en fait, on m'a jamais. Les rendez-vous de contrôle après la chirurgie ont toujours dit que la cicatrice était super, qu'elle était super belle, que. La lèvre se remettait super bien, donc finalement...
Ok. Voilà. T'étais quand même rassurée par le fait que t'aies entendu que dans d'autres protocoles, ils étaient...
Ouais, sinon je pense que... Sinon j'aurais pas osé, enfin, ouais. Je pense pas, effectivement.
Ok. Ouais. Et alors, après, vous avez repris cet allaitement, la diversification, elle s'est bien passée, parce que du coup, derrière, elle a plus de 6 mois, donc c'est quand même le moment de la diversifier.
Oui. Alors, au début, il fallait faire attention avec les morceaux, toujours... avec les fils, etc. Enfin, même une fois qu'on avait... Ils ont dit, allez-y doucement sur les morceaux. Mais en fait, moi, j'ai pas vu de différence entre... Enfin, non, ça s'est bien passé, la diversification.
Ok.
Globalement, quoi, ouais.
Est-ce que tu dirais que l'opération, et donc la réunification là, de cette lèvre, etc., ça a amélioré la succion d'Éléonore et que l'allaitement, il a été différent, tu vois, avant, après l'opération?
Alors, je pense qu'elle tétait peut-être un peu mieux. En tout cas, j'ai senti qu'elle mettait plus de force, on va dire, plus de pression. Et je me suis même dit, ah bah, je vais tenter d'enlever les bouts de sein à ce moment-là, du coup, parce que j'avais l'impression qu'elle avait plus de force. Et donc, j'étais allée retourner voir une consultante qui, on a essayé, mais non, ça a pas trop marché. Enfin,
là, elle a 7 mois, en fait, c'est ça.
C'est ça, donc au bout de 7 mois, voilà, enfin...
Peut-être qu'elle en aurait été capable, mais...
Oui, mais peut-être, dur. Mais en fait, elle comprenait pas, et puis... je me disais que tout ce qu'elle a vécu, là, j'ai pas envie de lui faire... Enfin, ça sert à rien d'avoir des pleurs pour essayer d'enlever. Enfin, on s'était habitué, j'avais ma petite boîte à la maison, la petite boîte dans le sac à main, la petite boîte dans la voiture pour ne jamais oublier. Puis...
C'est comme les tétines des enfants dans les lits.
Voilà,
tu sais.
C'est ça. Donc nous, c'était le bout de sein.
Un bout de sein à porter partout, tu te l'accroches n'importe sur le corps pourvu que t'aies une boîte à bout de sein accrochée
voilà,
à la ceinture.
Voilà, c'est ça. Et du coup, j'étais allée voir une fois, mais non, et puis... Mais ouais, elle mettait un peu plus de force, je le sentais aussi sur la pression dans le mamelon, quoi, qu'elle tirait plus, mais...
Ouais, t'as senti qu'elle faisait mieux le job.
Qu'elle faisait mieux le job, ouais. Ouais. Okay. Après, c'était pas non plus flagrant comme amélioration, moi.
Oui.
Donc, voilà.
T'avais une fente, voilà.
Voilà, la plus... Petite, donc effectivement.
Petite, et puis elle avait dû trouver ses moyens de compensation pour téter le mieux possible aussi. Hein.
Oui.
Ils sont intelligents, ces petits loulous.
Ah
et,
oui, oui.
Puis c'est vrai que quand le palais n'est pas atteint et qu'il n'y a pas cette connexion avec les voies nasales, il y a quand même un bout de dépression qui est possible à faire. Ce qui est moins facile quand le palais est atteint. Ok, très bien. Et alors, du coup, maintenant, vous en êtes où?
Alors maintenant, maintenant ça va, hein, maintenant ça roule. Là, elle a 21 mois, on est vraiment sur la toute fin de l'allaitement.
Ouais.
Je te disais, il y a des journées où elle tète plus du tout, où elle réclame pas. En fait, elle accepte de boire du lait dans un petit verre le soir avant de dormir.
D'accord.
Donc,
c'est un souhait de ta part ou c'est elle qui petit à petit se détourne?
Alors j'avais envie d'arrêter tout doucement. J'avais commencé à arrêter la nuit. Je lui ai refusé la nuit en disant on attend le matin ou je m'étais fixé des horaires dans la tête. Ça devenait toutes les heures, elle pouvait venir téter quoi.
Elle était devenue accro complètement après l'opération?
Ouais, c'est ça. Et jusque 15-16 mois, c'était comme ça et j'en pouvais plus.
T'as l'impression que c'est lié à l'opération?
Bah, je sais pas, est-ce qu'elle aurait été accro, mais en tout cas, elle tétait beaucoup plus après l'opération, enfin après ce petit sevrage forcé pendant quelques jours, quoi. Alors qu'avant, elle était plutôt fixée sur des horaires, je savais, c'était toutes les 3 heures, enfin, je savais qu'il y avait le rythme. Là, c'était vraiment... limite, elle me voyait, c'était tété, quoi. Enfin, et la nuit, ça avait... Enfin, pour moi, c'était trop... Et je savais qu'en amorçant la nuit, il se pouvait qu'elle arrête. Surtout que j'avais aussi, que je travaillais la journée. Et du coup, la journée, quand elle était à la crèche ou avec les grands-parents, bah, de fait, elle tétait pas. Mmh. Alors qu'elle retétait quand j'étais avec elle la journée, quoi.
D'accord.
Et donc, je savais qu'elle était capable aussi de tenir la journée sans. Moi qui voulais arrêter la nuit, je savais que donc il y aurait plus qu'une tétée le matin, une le soir et que ça pourrait s'arrêter.
Oui.
Et effectivement, donc ça c'était à peu près en janvier, c'était après Noël que je l'ai mis en place. Ouais, donc fin janvier, on était sur un rythme une le matin, une le soir, parfois une en plus quand j'étais avec elle avant la sieste ou quelque chose. Mmh. Et donc là on est en mars. Depuis début mars, je dirais, elle saute des journées entières quelquefois.
D'accord.
Et je pense que là, on est sur la toute fin, quoi.
Ouais, le sevrage nocturne a certainement un peu induit...
Induit, oui, et puis... je me souviens d'une tétée début mars où après, elle a pu téter pendant 2 jours et j'avais presque un petit regret en me disant, mince, j'ai même pas... Je me suis même pas dit, c'est la dernière, faut que j'en profite. Et après, elle a retété, donc je m'étais dit, et je lui ai même dit à elle, bon, bah, si c'est la dernière, il n'y a pas de souci, là, on en profite encore. Et, Et parfois, il y en a encore, bah, ce matin, par exemple, elle a tété un peu, mais...
Ok.
Mais ouais, je pense que c'est la fin.
Ouais, tu sens que ça arrive ouais. tranquillement à la
ça
fin.
Ça arrive, de... et puis je suis contente parce que ça tourne une page, et puis on en a bien profité, et puis je suis contente que ça se fasse comme ça, et pas autrement, finalement.
Tu vas pouvoir ranger ta collection de bouts de seins.
Voilà, c'est ça. Exactement.
C'est quoi du coup ton bon conseil d'allaitement bout de sein pour en avoir un toujours à porter? Parce que même la nuit du coup, avec un bébé qui tape toutes les heures, mais t'avais nuit, le bout de sein accroché tout le temps.
Non, je l'avais à côté. Alors j'avais acheté, j'avais des petites boîtes type appareil dentaire là, j'avais récupéré chez mes parents de quand on était ado. Donc je les mettais là-dedans. Au début, je lavais tout le temps, et puis après, au milieu de la nuit, je lavais plus, hein, je le lavais le matin, ouais. après, toutes les tétées, voilà, quoi. Mais, ouais, alors, j'avais testé aussi, au tout début, plusieurs bouts de sein.
Mm-hmm.
En fait, à l'hôpital, on m'avait donné un bout de sein de la marque Dodi.
Ouais.
Et c'est celui que la consultante m'avait dit aussi, s'il y a un bout de sein un peu mieux que les autres, c'était celui-ci.
Ouais.
Et, en fait, en pharmacie, je l'ai jamais trouvé parce que quand je voulais en acheter d'autres, justement, pour en avoir plusieurs, j'avais acheté des mâmes, mais c'était pas, elle arrivait pas trop avec. Je pense qu'ils étaient, la forme était un peu différente.
Ouais, ils sont plats.
Parce qu'en fait les voilà, les alors que les Dodi sont vraiment très longs. Enfin,
ouais.
Enfin, il y a plusieurs tailles, mais c'est vraiment un peu comme un mamelon, quoi.
Ça facilite.
Qui pointe, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, et du coup, je me souviens être, être retournée à l'hôpital où cette sage-femme me l'avait donné, lui demander où elle les avait achetées. Ils m'ont dit, bah, écoutez, on vous facture une consultation allaitement et on vous les donne, quoi.
Ouais, ok.
Et donc, j'en avais eu comme ça, donc j'en avais quatre, et puis, voilà, ça faisait ma collection. Ma collection.
Ok. Très ouais. bien. Bon, donc, ouais. du coup, qu'est-ce que ça aura qu'est-ce que t'en tires comme conclusion de cette expérience que tu t'es demandé si t'allais pouvoir mener comme tu le souhaitais? Enfin, tu vois, il y a eu beaucoup d'interrogations autour de tout ça, là, 21 ouais. mois après, et un sevrage ouais. approchant, franchement.
Ouais.
Qu'est-ce que tu retires de tout ça?
Bah, moi, je suis très contente qu'on ait réussi cette aventure, pu allaiter. Et puis, essayer, alors c'est dur, mais persévérer, coûte que coûte, quoi. Enfin, persévérer, s'entourer aussi des bonnes personnes. Je sais que mon conjoint m'aidait beaucoup, enfin, même dès le départ. Alors c'est peut-être un peu ridicule, mais c'est lui qui me la posait dans les bras, enfin, qui la prenait de son lit, alors que le lit était à côté, quoi. Enfin, qui me la posait dans les bras, enfin, qui m'aidait à bien la positionner aussi. Au niveau des positions, au début, ce qui aidait pas mal, c'était la position rugby.
Ouais.
Parce qu'elle avait la lèvre au-dessus, et ça avait un peu moins d'incidence.
D'accord.
Elle arrivait mieux, quoi. Et puis bon, finalement, on faisait plutôt la madone aussi au bout d'un moment. Mais il m'aidait à bien la positionner, les coussins, etc. Donc lui, il aidait beaucoup. Et puis, l'ostéopathe que j'étais allée voir, qui était hyper sympa, qui était formé aussi sur les tout-petits, enfin... qui m'avait encouragée, la consultante en lactation, enfin...
Ouais, t'as été bien entourée, en dehors de l'équipe d'opération qui t'a,
voilà,
ça t'a un peu mis des bâtons dans les roues.
Qui m'avait un peu des bâtons, ça me décourageait beaucoup, ouais, et puis... mais sinon...
Mais encore une fois, c'était leur protocole, ouais.
Oui, c'est ça. Je pense que... Bah, eux, ils veulent faire au mieux, quoi, c'est ça, ouais.
Exactement. C'est ce qu'on dit dans l'épisode avec Julie Longy, qui est spécialisée là-dedans, c'est qu'en fait, ils ont tous des protocoles différents. Voilà, c'est aussi rassurant de se dire qu'il y a différentes façons de faire et que visiblement, elles fonctionnent plus ou moins toutes. Et donc, ça permet, si on le sent comme toi, de prendre quelques libertés. Et puis sinon, ça peut être aussi de choisir un autre protocole si jamais c'est pas possible pour vous de faire comme celui qui est à côté de chez vous propose. Mais c'est vrai que ça rajoute énormément de charges, de trajets, etc. Sur des parcours qui, parfois, sont déjà compliqués.
Parce que même nous, avec le plus petit type de fente, on a quand même plusieurs rendez-vous là-bas avant, plusieurs rendez-vous après. Après l'opération, c'est pendant 6 mois, hein, tous les mois, un rendez-vous. Donc, c'est long. Là, il y a encore des rendez-vous de prévu. Elle a des rendez-vous de prévu jusqu'à ses 6 ans, en fait. Mais juste pour faire des contrôles au niveau des dents, de la gencive, etc. Et puis après, normalement, ça devrait aller. Après, elle peut... Ils ont décidé de pas retoucher le nez, bien qu'il soit pas tout à fait droit encore. C'est pas choquant. Enfin, je pense que si on le sait pas, on le voit pas. Mais elle aura la possibilité à l'adolescence de le faire ou pas, quoi.
En esthétique, si mais, elle le souhaite. Plus
voilà,
tard.
C'est ça. Si elle le souhaite. Donc finalement, nous, là, dans notre parcours fente, on a plus que ces deux dents de devant, en fait, qui ont été mal formées aussi, et qui sont toutes crayeuses, en fait.
D'accord.
Du coup, elle est en train de perdre des petits morceaux de dents.
D'accord. Ouais, ça, c'est lié à la malformation.
Mois. C'est lié à la malformation de départ, mais donc là, c'est plus un suivi dentiste qu'on a, quoi. Mais c'est,
oui, dentiste et peut-être orthodontiste après, en fonction
de comment
le palais...
Oui, voilà, orthodontiste après, ouais. C'est ça. Exactement.
Ouais, mais c'est pris en charge tôt.
C'est des choses... Voilà, tout est pris en charge et c'est des choses aussi que un enfant né sans fente peut rencontrer finalement aussi.
Tout à fait.
Quoi,
tout à fait.
C'est petit par rapport à ce que d'autres enfants avec fente labiale, fente vélaire, etc. peuvent avoir.
Ouais, donc normalement, le plus dur est derrière vous.
Le plus dur est fait, ouais.
Ok. Ouais. Et est-ce que, une fois passé les premiers temps, là, juste après la naissance où tu étais dans les choux, mais est-ce qu'elle était belle, cette Lolotte?
Ah oui, elle était belle. Oui. Elle était belle, mais bien sûr, elle était belle, ouais, ouais.
Évidemment.
Elle était belle, et puis...
C'était la plus belle, d'ailleurs.
Bien sûr, ouais. Et ça l'est toujours.
J'imagine, j'en doute pas.
Ouais.
Ok, très bien. Bon, bah écoute, merci beaucoup, Sarah. C'était,
c'était
super d'avoir ton témoignage d'un allaitement sur fente labio-palatine qui, c'est vrai, n'est pas le plus compliqué, mais bon, c'est, voilà, ça donne de l'espoir, se dire que c'est possible. Et puis là, pour toi, dans des conditions tout à fait correctes, quoi. Enfin,
oui. Ouais, puis en fait, finalement, il y a tellement de types de fentes et je pense que c'est unique à chaque fois, finalement. Voilà.
C'est sûr que ça met des bâtons dans les roues, et en particulier
voilà,
quand
faut
s'accrocher,
s'entourer,
plus costaud,
aller voir les pros, et puis
Bon, bah super, merci beaucoup pour ton histoire, pour les conseils qui vont avec. Bonne fin
oui.
d'allaitement et tété. Et puis je pense que ce sera un beau témoignage à entendre pour les mamans qui recevront ce style de diagnostic, pour avoir l'espoir que ça fonctionne et que ça peut fonctionner assez facilement.
Super, bah merci aussi pour ton temps.
Avec grand plaisir. Je te dis à très vite, merci. Et à tous et à toutes, à très bientôt dans Milkshaker.
À très bientôt, merci.
Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, je te rappelle que tu peux t'abonner, noter sur ta plateforme d'écoute préférée et faire voyager ce podcast pour que l'information circule au maximum. Si tu te rends sur milkshaker.fr, tu trouveras tous les épisodes depuis 2020. Ils sont là pour t'apporter toujours plus d'informations et de transmissions autour de l'allaitement maternel. Si tu préfères lire ou bien que tu es coincé sous un bébé qu'il ne faut pas réveiller, sache que tu y trouveras aussi le blog de Milkshaker. Chaque semaine, c'est un article qui sort pour avoir accès aux informations délivrées par des professionnels du podcast, et plus encore. Enfin, si tu me cherches en tant qu'ostéopathe, pour toi ou pour ton bébé, tu peux me retrouver à Suresnes dans les Hauts-de-Seine au centre IG4U que j'ai créé en 2020, sur mon site internet charlotte-bergerot.fr. Et pour la prise de rendez-vous, ça se passe sur Doctolib. On se quitte en musique avec Emma et son titre Blinded, écrit et composé en collaboration avec Nemen. À très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.
sais.